France Inter.
L'écrivaine, traductrice et critique de cinéma Hélène Frappa est normalienne, agrégée de philosophie et docteur dans cette dernière discipline. Elle a notamment publié les romans Sous réserve, L'agent de liaison par effraction, Inverno ou Lady Hunt, une anthologie ponctuée de réflexions consacrées à la violence, l'essai Le gaslighting ou l'art de faire taire les femmes et d'autres ouvrages consacrés à Jacques Rivette, Roberto Rossellini ou Tony Servillo. Commissaire de l'exposition L'amour est une fiction à l'IMEC, notre invitée s'intéresse au rapport de force, à l'autorité et à ce qui est subi. Celle qui apprécie les superpositions et expérimentations formelles vient d'imaginer ce qu'elle appelle une sitcom fasciste à travers son dernier roman, Nerona, paru chez Actes Sud. Le portrait d'une Lady Macbeth du XXIe siècle, inspirée par Giorgia Meloni, férue d'astrologie, vulgaire, autoritaire, climato-sceptique et combattante fébrile de tout ce qu'elle considère comme des déviances, et la liste est très longue. Exigeant d'être appelée le prince, elle règne sur le parti qu'elle a fondé, le feu pour force, énergie, union. Une satire pour laquelle Hélène Frappa n'a pu supporter de se documenter qu'en passant le réel à travers le tamis de l'humour et du grotesque. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Hélène Frappa.
Bonsoir.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmée ?
Bon, en vrai de vrai, j'ai révisé parce qu'il y a tellement de choses qui m'enthousiasment dans une journée. Je pense que c'est le trait principal de mon caractère, que j'ai dû faire un tri, choisir. Alors je dirais, il y a deux personnages qui sont le même en fait. C'est une petite fille. Alors hier, j'étais à Nancy, à la Foire du Livre de Nancy. Il y a un monsieur d'une cinquantaine d'années, un lecteur qui est venu m'acheter ce livre, Nerona, et qui d'une voix comme ça, basse, enfin presque comme un secret qu'il m'a chuchoté, m'a dit, dans le brouhaha de la foire, « Moi aussi, je suis une petite fille ». Il avait un peu les larmes aux yeux. Ensuite, il a dit qu'il a raconté qu'il était orthophoniste. C'était assez bouleversant. J'ai compris tout de suite, j'ai deviné un peu ce qu'il entendait. Enfin, disons, le secret s'est passé de mots. Et puis, je pensais aussi à une autre petite fille qui est celle qui est le secret. J'en dirai pas plus parce que je veux que les lecteurs achètent le livre de Nina Anticot, Une obsession. Nina Anticot qui a fait par ailleurs la couverture de Nerona, cette petite fille. Je pense que les deux sont la même et que c'est. Je réfléchissais à ces deux petites filles qui n'en font qu'une et je me disais, voilà, le sexe et le genre, c'est pas la même chose. Comme le montre Manerona, qui est de sexe féminin et de genre patriarcal, on peut être un homme et ne pas être de genre patriarcal et être de genre petite fille.
Et vous intervertissez souvent les genres, comme on va le voir tout à l'heure. Alors, je profite du fait que vous parliez maintenant de Nina Anticot, puisque je vous avais demandé une découverte pour les auditeurs. Vous avez choisi justement son prochain album, Une obsession, et on la reçoit bientôt.
Oui,
et vous la citez à la fin du livre.
Je la cite parce que c'est vraiment une très 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 belle rencontre. Elle a choisi de faire une adaptation en roman graphique de Trois femmes disparaissent, mon précédent roman. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et j'ai eu la chance de lire Une obsession, qui est un livre magnifique qui m'a énormément touchée. Donc c'est pour ça que j'avais envie de la citer. Et elle fait cette couverture, elle a tout deviné de ma dictatrice, si je puis dire, hein, cette Nerona. Et elle a fait une couverture extraordinaire, qui pour moi est très très importante, aussi bien comme un film en fait. Je trouve qu'un lecteur m'a dit qu'une fois qu'on a fini de lire le livre, de voir la couverture, dit encore beaucoup, prolonge la lecture.
C'est vrai, je suis en train de regarder la couverture, j'opine du chef. Dans Marie-Claire, Hélène Frappa, j'ai appris que vous viviez comme une sorte d'écrivaine anglaise dans son cottage, mais qu'en fait vous buviez du thé à la menthe Franprix, et j'ai trouvé que ça faisait un peu caricature de poète maudit dans un livre de Bulgakov.
Oh là là, mon chat s'appelle Marguerite.
Non, je vous crois pas.
Mon Dieu, j'y avais même pas pensé.
Le Maître et Marguerite, pour ceux qui n'auraient pas la référence.
Oui, alors ça, c'est un livre que j'ai lu quand j'étais petite, que j'ai adoré. J'ai même jamais osé le relire tellement j'ai aimé à la folie ce livre. Alors, c'est mon fils qui a choisi le prénom Marguerite. Je lui ai pas encore fait lire Le Maître et Marguerite, mais tout est dit. Effectivement, le thé vert Franprix qui a la couleur de l'absinthe, mais juste la couleur.
Ah, vous êtes baudelairienne aussi ?
Ben, de moins en moins, je dirais. Je pense que je vais m'attaquer à lui un de ces jours.
Il a quand même quelques qualités.
Oui.
Quelques défauts, mais
je l'ai beaucoup appris par cœur quand j'étais petite. Oui, il a beaucoup accompagné mes crises d'angoisse d'enfant, je dirais.
Ah, mais ça marchait parce que Baudelaire pour les crises d'angoisse.
Ah non, il m'enfonçait dans le néant, mais j'aimais ça, l'évidence, à l'époque.
Ah oui ? Vous avez l'air très solaire.
Oui, mais enfin bon, je ne vous apprends pas qu'il n'y a pas de soleil sans ombre. Hein. Donc, et que le soleil naît de l'ombre.
Ah oui. Ouais, je crois que Leonard Cohen disait quelque chose qui pourrait s'apparenter à ça.
Exactement, et Monk aussi.
Ah oui, Thelonious.
Ouais, cité par Thomas Pynchon.
Alors là, c'est un sacré name dropping pour commencer cette émission.
Ah ouais, personne, on nous a perdu là, je crois.
Bon, alors attention, parce que là, je sais pas comment, j'ai pas de transition pour la question suivante, mais vous en parlez en public, ça va parler de mort.
Allez-y.
Votre père s'est suicidé quand vous aviez 6 ans, vous êtes fille unique.
Et demi.
Pardon.
Oui.
6 ans et demi.
Oui.
Vous êtes fille unique et je vous cite. J'ai formé avec ma mère un couple fusionnel. Elle est morte il y a 10 ans, mais mourir n'est pas la manière la plus efficace de disparaître. Je trouvais cette formule très jolie. La question est la suivante. Quel rapport entretenez-vous avec vos morts ?
Alors, ils sont assez omniprésents. J'adore le titre de Nina Antico, Une obsession, parce que moi, je fonctionne par obsession, comme les enfants. Et je pense que les morts en font partie. J'ai commencé par connaître la mort avant de connaître la vie, par connaître l'ombre avant de connaître la lumière, pour vous citer. Donc, en effet, mon père, il a disparu quand j'avais 6 ans et demi. On l'a retrouvé 6 mois plus tard, donc ça a été un fantôme, en fait. Il s'était suicidé. Et j'ai vécu, oui, dans ce couple avec ma mère qui était corse, donc qui était elle-même d'une culture où les morts dictent leurs lois, hein, comme dans la culture sicilienne aussi. C'est les morts qui gouvernent, c'est un proverbe sicilien. Donc, alors c'est pas que triste, hein, ça peut être burlesque aussi. Moi je sais que j'ai, par exemple, longuement préparé mon enterrement, le menu, pâte à la tomate, la musique, enfin tout.
Qu'est-ce qu'on passera ?
Notamment une chanson de Peggy Lee. Je voulais pas donner, évidemment, parce que je la réserve pour mon enterrement. Mais au bout d'un moment, quand j'en parle de cet enterrement, je me dis, mais enfin, ce qui est insupportable, c'est de pas y être. Mais bon, bref.
Bah, j'espère que c'est pas You Give Me Fever, parce que si vous mourrez d'une maladie fiévreuse, je sais pas.
Voilà, c'est l'humour noir. Je crois qu'on a bien résumé la chose. Donc les morts, oui. Les... Après, il y a des vivants qui sont beaucoup plus morts que certains morts. Donc c'est tout ça. Je pense qu'il ne faut pas voir les choses, comment dirais-je, avec d'un côté la mort, de l'autre la vie. Il y a énormément de strates de réalité, de couches comme dans de feuilletage de réalité entre la vie et la mort. Et on peut passer d'ailleurs dans la même journée de l'un à l'autre. Donc c'est pas si sinistre non plus. Et puis le boulot de l'écrivain, c'est aussi de faire parler les morts. Ça fait partie de nos... C'est sur notre job description, comme dirait Nerona.
Sur le contrat.
Oui.
Vous dites Nerona, vraiment, avec un magnifique accent italien.
Avec un magnifique accent polonais.
Alors je dois dire quand même pour les auditeurs que pendant les essais de voix, juste avant l'émission, j'ai imité l'accent polonais, puisque j'ai un problème, c'est que, quel que soit l'accent que je fais, ça devient un accent polonais. Donc, vous parlez couramment italien.
Oui. Oui, oui.
Votre mère était l'une de vos héroïnes, elle a milité pour le FLN, elle était corse, elle venait d'une famille communiste. Mais vous dites tout de même, Hélène Frappa, avoir grandi dans la langue du silence, entourée de femmes veuves, orphelines, qui ne parlaient pas de leur tragédie. L'écriture, finalement, c'est en réaction à cela.
Oui, c'est même, je dirais, une transgression, en fait. Hein, puisque, en effet, moi, j'ai été élevée dans cette culture. On dit en Corse souvent, enfin, je l'ai entendu, et on le dit aussi, c'est la même chose en Sicile, « aqua in bocca ». C'est la loi de l'omerta, en fait.
L'eau dans la bouche.
C'est bizarre, hein, parce que littéralement, ça veut dire eau dans la bouche. Moi, je l'entends comme si vous parlez, vous êtes noyé. Ça, sans doute, c'est une menace, en fait. En tout cas, et puis c'est prononcé avec un signe de croix, généralement fait devant la bouche, qui est assez menaçant.
Mais quoi que je vous dise, si je fais un signe de croix devant la bouche, par exemple, si je vous dis crêpe au Nutella avec un signe de croix, c'est effrayant.
Oui, et en plus, si vous faites un signe de croix, il y aura l'accent polonais, il n'y aura même pas besoin de le faire. Mais oui, donc effectivement. Après, je pense que tout écrivain est aussi, c'est un lieu commun, ce que je veux dire, une malédiction pour une famille, c'est-à-dire il l'ouvre toujours à un moment où personne n'avait envie qu'il l'ouvre. Mais c'est vrai que, je viens de là, de l'omerta. Et je sens qu'il ne faut pas que je sois reprise par la malédiction. Je ne vais plus rien dire pendant les 40 prochaines minutes.
Non, bah si, quand même.
La 20e heure. Eva Bester. Sur France Inter.
Je suis avec l'écrivaine, traductrice et critique de cinéma Hélène Frappa. Vous publiez Nerona chez Actes Sud. Vous êtes inspirée de Giorgia Meloni, que vous avez transformée en Néron contemporain. Et cette vision, vous l'avez eue en lisant ses mémoires et en écoutant tous ses discours pour trouver un équivalent à son langage en français. Alors, comment est-ce que vous décririez son langage ?
Alors, en lisant ses mémoires, j'ai découvert qu'elle avait foutu le feu, petite fille diabolique, à son appartement familial, ce qui les a contraints ensuite, ce qui a contraint la famille à déménager.
Mais délibérément ?
Alors, non, c'est un accident tel qu'elle le raconte, et non seulement c'est un accident tel qu'elle le raconte, mais c'est l'origine d'un storytelling à l'américaine où elle est une sorte d'underdog, du coup elle est obligée de déménager dans une banlieue pauvre, etc. Elle omet de préciser qu'elle habite en fait à la base dans un quartier très riche et très fasciste de Rome. Mais moi tout de suite j'ai vu un film d'horreur à l'américaine, j'ai vu une petite fille blonde avec des tresses, avec des gros yeux globuleux, un peu comme dans les Simpsons quand les yeux tombent, voilà, j'ai vu ça et je me suis dit oui, j'ai vu Néron en fait. Alors après j'ai commencé à la lire et puis surtout à l'écouter et ça faisait un moment que j'avais eu l'intuition de son génie politique, hein, j'emploie le mot vraiment tout à fait sciemment, et en effet j'ai essayé de traduire. Alors je pense que les écrivains sont toujours des traducteurs d'une manière ou d'une autre, ils traduisent l'être humain. Là j'ai fait quelque chose quand même d'assez différent de ce que j'ai pu faire jusqu'à présent, j'ai traduit une femme politique qui tente de déshumaniser le langage humain. Et donc, qu'est-ce que ça donne dans la langue ? Alors, rhétoriquement, elle est géniale. Elle n'a aucune limite. J'ai encore écouté, avant de venir, un discours d'elle que je ne connaissais pas, où elle insulte Macron, en fait. Elle se moque de son accent français en italien pour reprendre les mots, en l'occurrence le mot « à vomir », et faire un discours contre la France-Afrique, en fait, qui est assez génial, je dois dire, mais qui, en même temps, est du gaslighting total, c'est-à-dire qui inverse tout. Elle n'a pas de limite. Elle est tout est possible. Comme disait David Rosset, qui a écrit ce texte magnifique, était en camp d'extermination et qui en est ressorti et qui a écrit ce texte magnifique qui s'appelle L'expérience concentrationnaire. Il disait les gens normaux ne savent pas que tout est possible. Les fascistes savent. Enfin, pour eux, c'est même pas qu'ils savent. Pour eux, tout est possible, à commencer par le langage. Donc moi, en tant qu'écrivain, c'est ça qui m'a intéressée. Donc effectivement, je me suis tapée, je dois dire, des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures pour essayer de la traduire, et aussi pour traduire ce langage qui est un langage romain, ce qui était assez particulier comme expérience.
Parce qu'il y a une référence aux gladiateurs dans votre livre, donc ce n'est pas anodin.
Non, alors il y a l'Empire romain, dont je ne savais pas d'ailleurs en commençant le livre à quel point il est la référence de toute la Silicon Valley d'extrême droite. Il y a l'Empire romain tel qu'il a nourri la mythologie mussolinienne. Il y a l'Empire romain du gladiateur et tout. Bon, moi j'adore l'Empire romain, par ailleurs, l'Empire romain des péplums, etc. Puis bon, c'est un moment de l'histoire assez, je dois dire, assez marrant, pas seulement avec Néron, enfin marrant. Marrant, on peut dire, aussi, cynique. C'est les grandes colonisations et puis ensuite les grands buffets pendant 10 000 personnes à Rome en train de se baffrer comme ça, juste pour fêter. Enfin, c'est un délire quand même, l'Empire romain. Et puis, il y a la langue romaine. La langue de la ville de Rome, cette ville pleine de morts d'ailleurs, hein, on marche sur les morts. Moi, j'y ai vécu longtemps là-bas. Et qui est cette langue dont Mussolini, qui n'était pas du tout romain, disait qu'elle se définit par le menefregismo, ça veut dire le rien à foutrisme, qui est l'essence même du fascisme pour lui. On n'en a rien à foutre de rien. Meloni, c'est ça. Et pourquoi elle ? Parce que c'est cette langue-là qui est en train de nous déshumaniser, de nous dévitaliser, de nous transformer. Quand je dis nous, êtres humains, pas seulement en Italie, en Europe, en France au moment où je parle, dans cette démocratie très fragile qu'est la France. Et c'est ce pressentiment-là que j'ai eu, et c'est pour ça que j'ai fantasmé, j'ai cauchemardé, je dirais, Nerona.
Moi, je vais vous parler de mon sujet habituel. Je parle toujours du même sujet. Je parle toujours de la violence et du rôle qu'elle joue dans la culture humaine. Au fond, nous avons de bonnes raisons de nous interroger sur la violence parce que nous savons qu'elle grandit dans notre univers. N'est-ce pas ? Mais les scientifiques ne remettent jamais en cause leur définition de la violence, qui est généralement en termes d'agression. Et si on dit agression, eh bien c'est un mot qui est un peu démagogique, je pense, parce que quand on pense à l'agression, on n'est jamais soi-même l'agresseur. Il est bien évident que nous ne sommes pas des agresseurs dont les comportements conduisent à des phénomènes violents, n'est-ce pas ? Donc, si on prend l'agression comme définition de la violence, personne n'est jamais responsable de la violence. Ce sont toujours les autres, des inconnus dont nous ne savons pas d'où ils viennent. Et au fond, on perpétue, et c'est l'essentiel peut-être, l'idée de la bonne nature humaine qui est celle de Rousseau.
René Girard, en décembre 2007 à l'école normale supérieure que vous avez fréquentée, Hélène Frappa, et ça c'est pour dire un petit mot de votre anthologie ponctuée de réflexions intitulée La violence, dans laquelle on le retrouve, et dans laquelle la question principale est « Existe-t-il une violence juste ?» Si je résume à gros traits.
Oui, alors c'est magnifique. J'ai cru que c'était Deleuze au début, la voix, mais René Girard et
les sourcils sont différents.
Ouais. Les ongles, surtout. Les ongles beaucoup plus courts chez René Girard. C'est la seule chose que j'ai à reprocher à Deleuze, c'est la taille de ses ongles. Donc, non, c'est magnifique parce que il y a toute la question, finalement, de l'ambivalence, de la laideur, de la violence, et de ne pas se représenter toujours du bon côté, la bonne conscience. Moi, j'ai pas voulu écrire un roman de gauche mignon, comment dire, juste pour me prouver que je suis quelqu'un de bien. Parce que, à mon avis, d'un point de vue littéraire, ça n'a pas d'intérêt. Et puis, d'un point de vue humain, en gros, ça revient à un truc narcissique qui ne m'intéresse pas des masses non plus. Donc, la question, c'était d'affronter quelque chose de laid, comme quelqu'un, moi, un de mes maîtres, hein, à qui j'ai pas mal pensé en écrivant ce livre, qui est Georges Simenon, a pu faire dans ses livres, c'est-à-dire en effet de se coltiner, ce que je ne fais pas habituellement, par exemple d'appauvrir la langue. Le langage de la violence est un langage pauvre.
Vous employez même un langage technocrate, un langage...
Technocrate, des répétitions, il y a des choses, alors il y a beaucoup volé absolument, pillé à du cut-up, hein, c'est-à-dire des morceaux de discours de Mélanie qui se retrouvent, il y a des bouts de Macron aussi, il y a du Valérie Pécresse. Elle est super forte, hein, enfin je ne sais pas si c'est elle qui les écrit, mais qui de mieux qu'une femme pour faire le ménage, c'est quand même une phrase, bon évidemment, que je ne pouvais que voler. Voilà, donc des phrases, des répétitions, je le disais. Donc ce langage-là. Et plusieurs strates en même temps. Donc c'était, en effet, il s'agissait d'une certaine manière, j'avais dans mon livre précédent, sur le gaslighting, j'étais entrée non pas dans la tête du gaslighter, je m'en foutais complètement de ce qui se passait dans la tête du mari gaslighter. Je dis mari, genre patriarcale. Hein.
Parce que vous faites des distinctions, hein, je tiens à le préciser.
Oui, je veux dire, je ne veux pas entrer à nouveau dans le débat qui me fait pleurer de déprime tellement il est débile, de not all men, not all Mary. Bon,
pourquoi c'est pas... ça vous fait pleurer ?
Parce que je trouve ça vraiment débile. On n'est pas en train d'apprendre de faire des additions à l'école primaire en comptant un mari plus un mari plus un homme plus un homme plus un homme égale cinq hommes. La question dans ce all men, c'est autre chose dont il est question. C'est ce qui, c'est un, comment dirais-je, c'est pas de l'arithmétique, mais c'est de la systémique.
Oui,
c'est
pas la même chose. Toute généralité est dangereuse.
C'est pas une généralité. C'est trouver une structure de la société. On est presque dans du transcendantal pour parler comme Kant. On trouve, enfin non, on n'est pas du tout dans du transcendantal. Je viens de dire une grosse connerie.
C'est pas grave. On a cité Kant. On avait fait du name dropping.
J'adore le citer. Ça y est, il a été cité. Je lui ai fait
Carlos,
dire un contresens.
Big
ça
bisous.
M'arrive.
C'est bon.
Ça m'arrive souvent. Je peux même le citer avec l'accent polonais, Kant.
Ah, bravo, et c'était un peu allemand.
Un prussien, donc on n'est pas loin de la frontière. Donc, bref, je me suis complètement perdue dans l'accent polonais m'a envoûté.
Bah oui, c'est ça, bah c'est ce que je fais aux gens.
C'est ce que, voilà.
Je leur parle comme ça. Non, là on dirait Enrico Macias. Pardon, non mais là c'est moi qui vous ai perdue.
Je me suis complètement perdue moi-même.
Je prends la faute car j'ai lu René Girard
c'est
et j'accepte d'être du mauvais côté.
Brillante.
Maintenant, c'est le
relancer.
Moment de passer un extrait de Gaslight.
If I were not mad, I could have helped you. Whatever you had done, I could have pitied and protected you. Because I am mad, I hate you. Because I'm mad, I betrayed you. And because I am mad, I'm rejoicing in my heart without a shred of pity, without a shred of regret, watching you go with glory in my heart.
Hélène Frappa, vous avez publié Le Gaslighting ou l'art de faire taire les femmes. Là, on entend Ingrid Bergman dans Gaslight de Cukor, Antise en français. Est-ce que vous pouvez rappeler brièvement la définition du gaslighting pour ceux qui ne l'ont pas en tête ?
Le gaslighting, c'est un mot qui vient du film de Georges Cukor, donc 44 Gaslight, Antise en français. C'est originellement une entreprise de manipulation d'une femme, d'une épouse, par son mari, hein, si on part du film de Cukor, entreprise de manipulation, une sorte de crime parfait qui va conduire non pas à assassiner, à ôter la vie de la victime, mais à lui ôter sa voix. C'est la mise à mort de la voix d'une femme qui va peu à peu, et c'est comme ça que je repense, et c'était bouleversant à cet homme, s'identifiant hein, comme une petite fille, et le faisant évidemment avec une voix très basse, une voix étouffée, une voix presque inaudible, parce que c'est ça la voix de la petite fille, c'est cette voix qui est une voix de survie, une voix qui tente d'appeler au secours, c'est cette voix de l'épouse dans Gaslight qui peu à peu bégaye, n'arrive plus à finir ses phrases, sort de toute rationalité et finit par être convaincue par son mari qui la manipule qu'elle est folle. Alors qu'elle ne l'est pas. C'est génial que l'extrait parte de la fin du film, parce que précisément, le lien, je dirais, entre mon essai sur le gaslighting et Nerone, c'est ce moment-là. C'est-à-dire, c'est ce moment-là où, à la fin du film de Cukor, la Paula, la jeune femme en question, qui n'est même pas mariée à cet homme, puisqu'il est bigame, donc en fait, même le mariage lui-même est une manipulation, de la fausse monnaie, comme les cadeaux qu'il lui fait pour aussitôt les dissimuler, pour aussitôt dire qu'elle perd les objets. Donc, à la fin, elle réussit à retourner comme un gant, en fait, ce terme de folle qui lui a attribué, au point de lui faire croire que sa propre mère, qui est morte en couche, hein, n'était pas morte, mais était internée, était folle et qu'elle est issue, comme toutes nous autres, toutes les femmes, issues d'une longue lignée de femmes folles, malades, dont la voix, dont le corps, dont nous ne sommes rien d'autre que le lieu d'une pathologie. Et moi, je voulais remonter à la généalogie de cette norme, en fait. Et ce qui est fascinant, c'est qu'à l'origine, il n'y a même pas le contenu de la parole féminine qui est discréditée, mais il y a le timbre même de sa voix qui est discréditée, notamment par Aristote. Et donc ce moment de retournement, c'est le moment d'ironie, et c'est là où moi j'ai ressenti en écrivant le livre, et vraiment je l'ai vécu, à quel point l'élucidation, qui comme disait Hannah Arendt, philosophe que j'aime beaucoup, enfin elle disait l'ironie est l'une des étapes de l'élucidation. Et bien cette élucidation, elle amène à une émancipation. Donc l'ironie comme arme, c'est ça dont je suis repartie dans Nerone.
Mais dans Nerone, vous êtes inspirée de Giorgia Meloni, même si c'est un personnage composite. Elle apparaît comme une gaslighteuse en chef, donc une femme peut utiliser cette manipulation du gaslighting. Et la question est la suivante, n'est-ce pas une forme de pouvoir d'être en capacité d'avoir les mêmes défauts que certains hommes ?
En capacité et en responsabilité. C'est comme ça qu'elle parle, j'ai saisi la perche, hein. C'est comme ça qu'elle parle Nerone, et d'ailleurs c'est comme ça aussi que Bayrou, par exemple, parlait, être en capacité, en responsabilité, ça me fait marrer. Mais oui, alors, encore faut-il entendre, enfin, tout à l'heure René Girard essayait de proposer une définition un peu précise de la violence, encore faut-il aussi avoir une définition un peu précise du pouvoir, un peu précise de la puissance. Par exemple, il y a un lieu commun depuis quelques années sur les femmes puissantes. Nous sommes toutes des femmes puissantes, Eva Bester, êtes-vous une femme puissante, etc. Moi, ça me fait marrer ce truc, parce que ça vient quand même d'un concept aristotélicien, pour citer un philosophe que je déteste, qui quand même nous explique que la puissance, c'est la non-effectuation de la force. Sous-entendu, la femme puissante, elle aura jamais aucune force. Donc déjà, c'est un concept qui est un peu, enfin, qui nous arnaque un peu, à mon avis. Après, la question du pouvoir. Est-ce qu'une femme qui s'empare du patriarcat a du pouvoir ? Je ne le crois pas. Je pense qu'elle se soumet, elle collabore avec un type de pouvoir qui, à la fin du fin, va lui niquer la gueule, en fait. Je peux pas le dire autrement que ça. Enfin, elle va se faire avoir, disons, par ce pouvoir-là. C'est ce que fait Nerone, et c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, elle est de sexe féminin, elle est de genre patriarcal. Son premier décret, elle en fait beaucoup, et d'ailleurs, ça j'ai piqué des décrets de Giorgia Meloni, c'est elle qui a anticipé même les décrets de Trump, elle en fait tellement, le but évidemment est de se passer du Parlement.
Elle en fait même contre les éruptions volcaniques.
Alors Nerone a fait des...
C'est l'hubris total.
Voilà, c'est l'hubris total, c'est vrai qu'elle pète de plus à la fin.
Vous êtes amusée.
Complètement. Mais j'étais morte de rire. C'est une arme de survie, c'est-à-dire qu'en effet, il y a un moment où il suffit de pousser un peu plus loin l'irrationalité, et pour arriver à anticiper, certains journalistes ont pu écrire que j'exagérais, mais j'exagère pas du tout, puisqu'en fait, j'ai même dû retirer certaines des choses au manuscrit que j'avais écrit quand il était fini, tellement la réalité elle-même se mettait... Alors, si j'avais lu Brise de Nerona, je dirais Trump m'a plagié. Mais enfin, la réalité se mettait à imiter Nerona, juste parce que je poussais un peu plus loin. Donc, la masculinisation de Nerona, comme celle par décret de Giorgia Meloni, je ne crois pas que ce soit un gage de pouvoir. Enfin, c'est un gage de pouvoir patriarcal, oui.
En tout cas, je voudrais juste dire, avant de lancer un disque, je voudrais juste dire que, pour vous, Jacques Rivette, on avait prévu une archive de Jacques Rivette, mais on n'a pas le temps de la passer, mais elle était formidable. Imaginez une archive formidable. Vous dites que c'est la femme cinéaste, la grande autrice de la Nouvelle Vague. Et ce qui est amusant, c'est que Nerona, qui veut se faire appeler Monsieur le Prince, eh bien, j'ai regardé, je me suis un peu documentée sur Giorgia Meloni pour préparer l'émission. Et non seulement elle dirigeait le parti d'extrême droite qui s'appelait Frères d'Italie, et sa mère écrivait des romans d'amour sous le pseudonyme de Amanda King.
Roi, oh, je vous laisse génial. Avec ça. Voilà. Je ne savais pas.
Eh bien voilà, la boucle est bouclée. J'ai jamais dit cette expression.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Hélène Frappa, vous publiez Nerona chez Actes Sud, où l'on trouve notamment cette formule paradoxale « Rions ensemble pendant qu'il est trop tard ». Ce n'est pas la seule chose, évidemment, ironique et drôlatique de ce livre. On a dit que vous étiez inspirée de Giorgia Meloni, mais il y a plein de choses qui diffèrent, évidemment, et plein de choses qui ne la concernent pas. Par exemple, dans le livre, elle est née un 25 avril, donc j'ai vérifié parce que je suis obsessionnelle comme vous. Ce n'est pas le cas. Et il est souvent question de tarot et d'astrologie. Ça, c'est réel ou pas? Ou vous l'avez inventé, elle y a recours?
Alors, il y a eu, il n'y a pas très longtemps, quelques mois, à Rome, un congrès officiel sur le cancer, avec donc des scientifiques, les ministres qui étaient là, et puis un astrologue au milieu, donc je me suis dit, allons-y, quoi. Sachant que j'ai visité pour écrire une partie du livre, qui est la partie, disons, la partie... de la tragédie qui est ce langage qui va s'opposer au langage fasciste, avec un film où j'ai casté Julia Roberts. Mais j'ai visité les studios de Cinecittà et j'ai découvert à cette occasion qu'il n'y a pas de studio 13. Mussolini avait interdit qu'il y ait un studio 13 par superstition. Donc c'est toute cette irrationalité qui imprègne tous les discours autoritaires, populistes, fascistes, contemporains aussi, qui m'intéressaient. Et puis l'astrologue, oui. L'astrologue dit n'importe quoi. J'ai écrit littéralement n'importe quoi, le but étant qu'à la fin, elle finisse par, disons, sacrifier sa mère et sa fille, j'en dirais pas. Et sa sœur, pardon, j'en dirais pas plus.
Vous en avez déjà dit beaucoup. Ouais.
Au pays de Candie, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit. Il y a des méchants et des gentils.
Il y a beaucoup de références pop dans votre livre, Hélène Frappa. Là, on entend le générique du dessin animé Candy, que vous citez d'ailleurs, puisque c'est dans votre livre le moment où Nerona aurait laissé brûler une bougie avec sa sœur, puisqu'elle était absorbée par le dessin animé et la maison aurait pris feu. C'est un drame de son enfance. Le feu, c'est un des motifs du livre. Et malgré la diabolisation et la farce, le côté farcesque de votre écrit, il y a quand même un peu d'empathie, j'ai l'impression, puisque à un moment, vous faites parler Nerona de son père disparu.
Oui, c'est inspiré d'ailleurs de la vraie Meloni, comme au pays de Candie d'ailleurs, qui est censé avoir accompagné l'incendie. Ce qui m'intéressait dans la chanson, moi j'étais pas une fan quand j'étais petite de Au pays de Candie, je trouve ça vraiment trop nunuche pour moi, même si il y avait d'autres trucs nunuches que j'aimais, mais c'est le côté il y a des méchants et des gentils, voilà. C'était justement ça que je voulais éviter, c'est-à-dire je voulais pas juste dire exactement comme quand j'ai écrit le gaslighting, il s'agissait pas de dire il y a des méchants maris et il y a des gentilles femmes, ça n'a aucun intérêt, encore une fois. Donc, c'est pas du tout dans cette direction-là que je voulais aller, du coup.
D'ailleurs, à un moment, on apprend qu'elle a fait un trombinoscope de tous les premiers ministres dans un carnet depuis son enfance. Et je la cite, « Ce sont des vieux mâles blancs de plus de 50 ans, comme disent les féministes, elles n'ont pas toujours tort.
Oui, mais ça c'est génial en fait, parce que c'est le moment, je pense, très important historiquement, où pendant très longtemps, la figure, hein, et encore maintenant d'ailleurs, hein, la figure de autoritaire, du dictateur, de l'homme fort de la nation, c'était Papa Trump, Papa Mussolini, Papa Duce, le chef, Papa Hitler, etc. Là, on est quand même dans une période historique vraiment intéressante, où Meloni nous dit quelque chose de ce qui nous pend au nez en France, hein, je pense évidemment à Marine Le Pen comme figure, elle aussi, qui joue sur ces codes. Enfin, des personnalités qui ont un programme homophobe, misogyne, contre l'avortement, contre les droits des femmes, hein, pour toutes les discriminations, contre les déviances, ce que Mélanie appelle les déviants, et qui en même temps vont jouer dans leur storytelling, dans leur style, etc., de tous les clichés de la mère, j'ai une fille, j'ai des... etc., la douceur, tous ces clichés.
Ça vous en moquez beaucoup dans le livre.
Voilà, à l'image de la féminité. Alice Weidel, en Allemagne, totalement nazie, hein, mais en même temps lesbienne, mariée à une femme, Sri l'enquête. Donc là, je crois qu'il faut écouter ce moment-là, ce moment Manif pour tous, en fait, qui est en train d'arriver. Et écouter pas seulement... Il y a beaucoup de livres, hein, sur maman, papa, et ce terme de maman, moi, il m'intrigue beaucoup, qui revient beaucoup dans le discours littéraire en ce moment, en tout cas tel qu'il est éditorialisé. Il y a aussi une maman fasciste, il y a aussi cette figure-là, cette figure qui nous pend au nez pendant que, avec ce repli qui caractérise, je trouve, hein, actuellement la France, nous sommes là concentrés sur nos histoires, pour citer Gilles Deleuze, notre petit roman familial de papa-maman, tandis que des papas et des mamans bien fascistes sont en train de foutre le feu à tous les sens du terme, et ben Nerona, elle fait ça.
Tout à l'heure, on a fait allusion à Rousseau. Ne pensez pas que, si on le pouvait, la majorité d'entre nous, êtres humains, voudraient être dictateurs ? Parce que ça a l'air confortable quand même.
Alors moi, je dois dire, je trouve que l'essentiel, d'un point de vue éthique, et je ne sépare pas beaucoup, même si, bon, je ne sépare pas beaucoup l'éthique de la politique de ce point de vue-là, c'est moi que chaque être humain reste à sa place. C'est-à-dire que moi, par exemple, je reste à ma place d'écrivain. Donc, moi j'adore Rousseau, à vrai dire, j'ai un amour complètement névrotique pour Rousseau, mais ça prendrait des heures, donc je vais m'arrêter. Mais, comment dire, ma place, c'est d'être, en tant qu'écrivain, une sorte de sentinelle du langage humain, d'essayer de voir ce qu'il détruit, ce qu'il menace, ce qu'il appauvrit, ce qu'il enlaidit, ce qui a pu, dans la généalogie, y compris de la politique française d'ailleurs, le faire, comment les éléments de langage maintenant qui nous font du mal, qui nous font du mal y compris à nous, êtres humains, psychiquement et politiquement, et essayer sans psychologie, il n'y a pas de psychologie dans Nerona, hein, même s'il peut y avoir de l'empathie. Moi, bien sûr que j'adore mon personnage, je ne vais pas passer des années avec un personnage sans l'aimer, ça c'est presque... Évidemment, ça ne veut pas dire que j'aime Meloni, mais Nerona, ce n'est pas exactement la même de ce point de vue-là. Mais voilà, moi c'est ça mon boulot, en fait.
J'aime que tout soit bien rangé. J'aime la chasse et mes copains bourrés. J'aime surtout la représentation du Christ. J'aime bien que les femmes n'avortent pas. J'aime bien la télévision. J'aime
Eh bien, nous aimons ce groupe toutes les deux, Hélène Frappa, Sexy Sushi, et vous avez choisi J'aime mon pays.
Oui, je l'ai pas mal écouté quand j'écris la Nerona, parce que c'est assez analogue à comment dirais-je, à ce que j'ai essayé de faire, c'est-à-dire il y a du cut-up, elle reprend, c'est des slogans de la Manif pour tous, en gros, hein, c'est des propos fachos, et elle le fait d'une telle manière qu'il y a une ironie qui se dégage, et même une énergie qui fait que ces slogans qui sont mortifères, hein, qui appellent vraiment à tuer, enfin c'est vive la mort, hein, c'est vive la mort que dit à la fin d'ailleurs Nerona, c'est un slogan de Franco évidemment, et ben il y a quelque chose de vital, de vivant, on peut s'en emparer en survivant par le rire aussi, et on peut même danser dessus.
Et la haine aussi qui peut être un moteur, puisque c'est la haine, il y a de l'énergie dedans, dans la colère.
C'est le retournement de cette haine-là.
En parlant de contre-pouvoir, puisque justement on n'en parle pas, il y a une émission que vous avez inventée dedans, une émission interdite par la princesse à l'adresse des téléspectateurs du Monde Libre, 2 et 2 font 5, qui est non seulement le titre d'un recueil d'Alphonse Allais, qui est un de mes chouchous, mais qui a évidemment été très utilisé par George Orwell, et bien avant 1984. Vous pensez qu'avec l'ironie, qu'avec le pastiche, on peut encore avoir un garde-fou pour la liberté ?
Je pense que c'est... Oui, je pense que... En tout cas, de ma place d'écrivain, c'est presque un... Comment dirais-je, je le fais, alors là pour le coup, en conscience et en responsabilité, mais sans ironie. C'est ce que nous, en tout cas moi c'est le livre que je devais écrire à ce moment-là, je voyais pas d'autres livres que je pouvais écrire au moment où, comment dire, où il était déjà sans doute trop tard. Comment dire, il faut traduire en fait. Voilà, le langage du gaslighting, le langage, ce que Orwell a montré, c'est que c'est un langage qu'il faut en permanence traduire. C'est un langage qui dit le contraire en permanence, c'est la perversion du langage humain. Donc en tant qu'écrivaine, donc traductrice, il fallait réussir à traduire ça, oui. Ça, je peux... Et remettre un cadre, remettre de la loi là où il n'y a que de la norme. Ce qu'on entend dans la chanson de Rebecca Warrior, là, qui est géniale, c'est que de la norme. Il y a toutes les normes, hein. Elles y sont toutes, cato, facho, de droite, manif pour tous et tout. Mais il n'y a aucune loi. Il y a l'inceste. Donc, voilà. C'est cette question-là qui est essentielle maintenant. Remettre de la loi là où il y a de la norme. Et le langage humain peut le faire, ça aussi.
Je vais vous parler d'ordre et de structure, mais pas celle que vous croyez. Puisque là, c'est la littéraire que je voudrais aborder. J'ai l'impression que vous avez aussi construit l'ouvrage, qui est assez expérimental à certains moments, comme une pièce de théâtre entrecoupée de spots de publicité et parfois des tirades lyriques de la sœur de Nerona qui sonnent comme le cœur, un cœur antique de prophétie.
D'un côté, c'est une site comme ça, m'est venu comme ça. J'ai mis énormément de temps parce que pendant que je passais mon temps dans ma cuisine avec mon thé vert Franprix à écouter des discours de George Meloni, j'avais pas la. Moi, je voulais pas écrire un essai, je voulais pas écrire un pamphlet. J'attendais que la forme fictionnelle me tombe dessus. Et puis elle m'est tombée dessus un jour, j'ai commencé. C'est-à-dire une forme entièrement dialoguée, comme un peu dans West Wing à la Maison Blanche, hein, cette série, c'est-à-dire où on voit aussi beaucoup les conseillers, la réalité, le discours et puis la réalité qu'il y a derrière. Avec elle totalement ordurière, enfin qui correspond pas du tout à la manière dont elle se présente à son peuple, comme elle dit, à sa nation. Et puis, est-ce qu'il fallait un contre-pouvoir ? Vous avez dit contre-pouvoir, c'est exactement le mot. En termes littéraires, est-ce que un personnage, une autre fiction, un autre récit devait s'imposer ? Et est arrivé, à vrai dire, c'est inspiré d'une personne qui existe pour de vrai, qui est la mère d'un jeune homme, Mirko, qui est mort, tué dans le pont de Gênes, dans l'effondrement du pont de Gênes, il y a quelques années en Italie. C'était le pont des pauvres, il était éboueur, il y a eu 65 morts. Et sa mère, il a été le dernier corps à être retrouvé, sa mère est restée là, elle a hurlé d'abord, et puis ensuite elle a dit « Je ne partirai pas tant qu'on ne me rendra pas le corps de mon fils ». Moi j'ai été hantée par cette femme, j'ai été hantée par ce jeune homme que je ne connaissais pas, et j'ai voulu depuis des années que cette voix-là on l'entende, et que ce soit un autre récit. Et ce récit des morts-là qui va s'opposer effectivement à cette voix fasciste qui est celle de Nerona.
The only thing which can help us, I think, is really to réfléchir. And to think always means to think.
Réfléchir, cela signifie de toujours penser de manière critique. Et penser de manière critique, cela signifie que chaque pensée sape ce qu'il y a en fait de règles rigides et de convictions générales.
Rigid rules, general convictions, etc. Everything which happens.
Tout ce qui se passe lorsqu'on pense est soumis à un examen critique, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de pensée dangereuse pour la simple raison que le fait de penser est en lui-même une entreprise très dangereuse. Mais ne pas penser est encore plus dangereux.
Et oui, Hannah Arendt parlait aussi français. Hélène Frappa, vous avez traduit de nombreux ouvrages, des essais comme des romans, dont Les origines du totalitarisme d'Hannah Arendt, qu'on entend en 1974 dans le documentaire télévisé réalisé par Jean-Claude Loubchansky. Alors, parmi toutes vos traductions, parce que j'aime bien terminer par des recommandations et surtout des choses inattendues, il y a Adorno, Raphaëlson, Mary MacLane, Anne Patchett, Laura Lippmann, Laura Morante. Est-ce que vous pourriez recommander un livre que vous trouvez peu connu ?
Amitié de Samson Raphaëlson, le scénariste de Lubitsch. Pour le coup, il y a des morts, il y a des vivants, il y a ce personnage extraordinaire de Lubitsch, et il y a vraiment un être humain, un mensch, on pourrait dire en yiddish, un être humain. Enfin, il y a, je crois qu'on peut être aussi des womensch, par exemple, par ailleurs, qui est là et qui ressurgit, enfin, qui ne meurt jamais dans ce texte. C'est un des textes les plus drôles, les plus profonds, les plus dangereux aussi, hein, qui m'a été donné de lire et de traduire. J'emploie le mot dangereux parce que Arendt vient de l'employer. Et bien sûr que c'est dangereux de penser parce que, comme je le disais, il n'y a pas d'élucidation sans émancipation. Donc c'est là, c'est exactement dans cette articulation-là qui est existentielle. Moi, j'ai fait de la philo et je suis pas restée à l'université. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'étais obsédée par cette question qu'une lectrice pose à Kant, une lectrice qui a eu un chagrin d'amour, c'est mon premier roman, qui veut se suicider, qui a cette idée de courrier du cœur d'écrire à Kant en lui disant « Donnez-moi une raison de ne pas me suicider, c'est interdit par votre philosophie. » Alors je sais que j'ai pas le droit, mais en même temps je suis désespérée parce que mon mec m'a quittée, que j'adorais. Et elle lui dit « Vous êtes obligée de me répondre, sinon vous n'êtes, tout ce que vous avez pensé, conçu dans votre philosophie ne tient pas si vous ne me répondez pas. » Donc ça doit servir un livre.
Mais quelle est la réponse de Kant ?
Oh, elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire, c'est-à-dire que pour cette femme, Maria von Herbert, il va inventer quelque chose entre la vérité et le mensonge. En général, il n'y a pas grand-chose, il n'y a rien pour Kant. Soit on ment, soit on dit la vérité. Là, il va inventer cette notion de réserve qui est que sans dire toute la vérité, on peut ne pas mentir. Donc, il va trouver pour cette femme, alors littéralement, hein, c'est un remède à la mélancolie, il n'y a pas d'autre mot, puisque
bah oui, c'est
Kant était obsédé j'insiste. Par la mélancolie. Et ben, le livre aussi, c'est ça, et je pense que Nerona, moi je l'ai écrit pour ça, pour mon propre remède à ma propre mélancolie en ces temps-là, et je pense que oui, le livre, un livre doit toujours servir, et c'est ce qu'on voit dans le livre de Raphaëlson, Amitié.
Merci beaucoup Hélène Frappa.
Merci à vous.
Alors, je rappelle d'abord que votre roman Nerona est sorti chez Actes Sud et je révèle aussi pour ceux qui ne le savent pas que vous avez créé avec les cinémas MK2 un ciné-club Cinéma Gora et que le prochain aura lieu le lundi 22 septembre à 19h30 au MK2 Beaubourg à Paris avec la projection du film Les filles, faites la fille, pas la guerre de Maï Zetterling. Et nous avions une formidable archive, mais nous n'avons pas le temps de la passer. J'aime frustrer les gens. Est-ce que je fais du gaslighting ? Non, pas du tout. Je suis simplement sadique. Est-ce que j'ai tout dit à votre sujet dans les actualités ? Oui. Dites oui parce que je dois rendre l'antenne.
Oui, oui,
merci beaucoup. Cette émission a été réalisée avec brio par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Louise Tempero et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin. À la technique, Guillaume Roux.